Bonjour à vous tous. Merci d'être venus à l'heure du repas avec vos estomacs qui gargouillent férocement et ça prouve que vous nous aimez. Maintenant on a une table ronde sur le thème de la machine qui lit. La machine qui lit, eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une machine qui lit avec nous, qui lit pour nous, qui lit en nous, qui sait, qui lit le monde. Alors, les participants à cette table ronde sont Dominique Douay. Je plaisante. Dominique Douay n'a pas pu être avec nous pour des raisons de santé. C'est un auteur français de science-fiction important et qui a écrit beaucoup il y a longtemps, moins pendant quelques années, et dont trois livres au moins ont été publiés récemment au Mouton électrique, y compris un roman vraiment important et important par la taille, important par la thématique, important par la qualité, qui s'appelle La fenêtre de Diane. Donc si vous avez l'occasion d'acheter et de lire La fenêtre de Diane de Dominique Douay, je vous le recommande fortement. Un des aspects du livre, c'est qu'il existe une planète quelque part en dehors de la galaxie qui est un immense sphère de données qui est lue par des machines et par des machines humaines qui, en lisant les données, reconstituent un monde hallucinatoire. Donc ça, c'était Dominique Douay. Merci Dominique. Et on espère qu'il va se rétablir vite parce que ses problèmes étaient sérieux, bien sûr. Et maintenant, passons aux invités présents qui ne sont pas en virtuel. Là. Olivier Paquet, auteur, bien sûr, formation en sciences politiques il y a quelques années, auteur de pas mal de livres, dont la trilogie du Melkin chez l'Atalante, je cite toujours celui-là, et Bleu Argent, c'est ça ? C'est un des derniers parus ? Non, Jardin d'hiver est le dernier paru, mais je voulais changer un petit peu. On avait parlé du Jardin d'hiver à l'occasion du truc sur l'écologie. Bleu Argent, c'est paru en 2014, c'est moins récent. Mais c'est bien aussi, hein ? Un livre, ça ne meurt pas si vite que ça. Sarah Dock, vous la connaissez, vous l'avez peut-être écoutée il y a 2 heures sur une autre table ronde. Elle est traductrice, elle est enthousiaste de la SF depuis peu de temps, parce qu'il faut lui laisser le temps de naître. Elle a écrit récemment, puisque c'est paru, enfin elle a écrit récemment en tout cas, est paru récemment, en 2016, son livre Technophérie, aux éditions Les Moutons électriques. Je me laisse avoir, je lis comme une machine, et il y avait une coquille et je l'ai lu. Ménéas Marfil est lui aussi un auteur de romans plutôt pour la jeunesse qui sont parus. Donc Ménéas, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui a fait beaucoup de métiers, qui a vécu dans des endroits que nous considérons comme exotiques parce que nous n'y avons pas vécu, comme Madagascar, et qui a, depuis quelques années, fait des livres de fantasy pour la jeunesse et aussi de science-fiction pour la jeunesse. Le plus récent, et peut-être le plus pertinent pour notre propos, s'appelle « Petit cuivre contre le grand virtueur ». Et je crois que tous tes livres, Ménéas, je ne me trompe pas, hein, tous tes livres sont aux éditions Au Diable Vauvert.
Au Diable Vauvert, ouais,
voilà.
Oui, c'est ça.
La machine qui lit, ça peut être beaucoup de choses. On va commencer peut-être avec Olivier. Et la machine en tant que professeur qui étudie les textes et les ressemblances entre auteurs, critique universitaire, disons.
Voilà. C'est-à-dire que là, je parlais d'un domaine que j'ai connu un des professeurs lors de mes études qui s'occupait de ce domaine, qui est la lexicométrie. Et donc, l'idée de la lexicométrie, c'est d'analyser les textes et de les faire traiter par une machine, par un ordinateur. Et donc, ce chercheur avait analysé des tas de textes d'auteurs français, et donc toute une galaxie d'auteurs français, et il avait obtenu finalement une sorte de carte de proximité entre les auteurs. Et donc, on voyait, par exemple, tous les auteurs du nouveau roman, ils étaient assez proches, ce qui semblait normal. On voyait dans un coin que Flaubert et Maupassant, au début de la carrière de Maupassant, étaient très proches, il y avait une vraie proximité, ce qui était normal, parce que ce qu'on connaît de l'histoire de Maupassant, c'est que Maupassant était fan absolu de Flaubert. Donc il y avait une vraie proximité, donc tout ça était logique. Et puis, il y a eu un truc, mais ça le chercheur aussi le savait, il voulait vérifier un truc. Il y a une sorte d'anomalie d'une certaine manière, c'est qu'il voyait qu'il y avait une sorte de fusion entre certaines pièces de théâtre de Molière et l'écriture de Corneille. Et donc, de ces recherches sont nés des articles et est née une polémique en disant, à travers l'exométrie, que finalement, Corneille a sans doute écrit un certain nombre de pièces de Molière. Et ça, ils l'ont trouvé grâce à la lexicométrie. Il y a très longtemps, des auteurs avaient dit, avant que les machines s'occupent des textes, qu'il y avait sans doute, effectivement, Corneille et Molière... voilà, il y a sans doute que Corneille avait écrit des pièces, mais là, à travers l'étude lexicométrique, on avait une preuve, avec une analyse d'ordinateur, de cette proximité. Donc, évidemment, ça a créé une polémique... Parce que est-ce que vraiment un ordinateur peut faire de l'analyse et trouver des proximités d'auteur ? Alors, savoir que tous les textes étaient analysés, parce que ça c'est aussi intéressant dans les lexicométries, c'est qu'il ne s'agit pas juste de regarder, on prend la liste des mots et puis on mouline et on voit ce qui se passe, on balise le texte, on regarde la syntaxe, on regarde les proximités, il y a tout un travail de découpage du texte pour le faire rentrer dans la machine. Et donc, on obtenait ce résultat que pendant 6 ou 7 pièces, on a une proximité. Et en plus, les faits historiques faisaient que c'était cohérent. Il y avait une cohérence. C'est-à-dire qu'on sait que Corneille et Molière se sont croisés. On sait que Corneille voulait écrire des pièces comiques, mais comme on lui commandait, on est quand même dans une période de commande, on lui commandait des pièces tragiques, il ne pouvait pas le faire. Donc, il y avait une certaine logique. Parce que imaginez qu'on ait un auteur russe et un auteur sud-américain qui ne se sont jamais croisés et qu'on trouve une proximité, là, on ne peut rien en faire, c'est jamais arrivé. Mais voyez comment la machine, en fait, elle trouve des proximités d'auteurs. Il y avait une logique. Pour ça, ce qui était intéressant dans le travail de Dominique Labbé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de « je veux prouver que Corneille a écrit les pièces de Molière ». Il a étudié des tas de textes, il trouvait des choses cohérentes avec ce que l'on connaît, et donc, du coup, il y avait cette particularité, cette anomalie Corneille-Molière.
Et on peut à ce moment-là parler d'autres formes de programmes d'analyse de texte, qui sont par exemple les programmes utilisés par les universités pour détecter les plagiats dans les mémoires, dans les articles, etc., et qui partent un petit peu du même genre de principe que ce dont tu viens de parler.
À vrai dire, excusez-moi pour cette petite question technique, mais dans le cas de Molière et Corneille, Corneille jouait le rôle du nègre, disons, donc bon, il ne s'agit pas exactement d'un plagiat, il n'y a pas un autre texte de Corneille qu'on puisse prendre pour dire voilà un bout qui est dedans, et tu peux en dire un peu plus. C'est le même genre d'analyse d'ailleurs qui a été utilisé tout récemment pour affirmer que Christopher Marlowe est un co-auteur probable de Shakespeare sur certaines de ses pièces. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la manière dont justement le logiciel lit, détecte
Oula, c'est vraiment des analyses statistiques assez... parce que c'est surtout on balise le texte. C'est-à-dire que l'ordinateur, on ne déconstruit pas le texte avec les mots. On parle en fait d'analyse de style. On essaye de redécouvrir dans le style comme un auteur a sa propre manière d'agencer les mots. Et donc, même s'il écrit pour Molière, on retrouve quelque chose. Il faut le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un écart entre Molière et Corneille. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on sait que c'est donc Molière qui a écrit les pièces. Donc finalement, on a cette proximité à un moment et un écart après. Donc ce qui se permet aussi, c'est-à-dire que c'est pas pendant... Et avant aussi. C'est-à-dire qu'avant, Molière a fait des pièces qui étaient surtout des farces, assez grotesques. Et puis il y a un moment où il commence à... Voilà, ça commence à monter. Là, tout d'un coup, ça change. Surtout qu'on n'a pas vraiment... Dans les archives nationales, on n'a pas de... Mais ça, c'est normal, c'est à peu près pour pas mal d'auteurs. On n'a pas les manuscrits des pièces de Molière. Donc on n'a pas de texte, mais c'est comme Shakespeare, hein, donc c'est pas la question est pas là. Mais c'est des choses... Et on sait, ah oui, si, quand même, parce que je vais pas m'empêcher ça. C'est-à-dire qu'on sait que Corneille mettait dans ses pièces tragiques des allusions comiques. Je ne sais plus dans quelle pièce c'est, mais il y a une phrase célèbre de Corneille qui est « Le désir s'accroît quand les faits se reculent ». Donc, je veux dire que le comique chez Corneille, il est sous-jacent, il est en dessous. Donc, on sait que ça, donc on sent qu'il y avait un désir chez lui de comique.
Et quelque part, la machine analyse la musique du texte, en fait.
Oui, et pas le sens.
Effectivement, nous restons loin du sens, mais une autre sorte de machine qui lit ou qui se lit, c'est les liseuses. Je crois que tu voulais nous dire quelque chose sur la manière dont notre lecture devient plus machinique maintenant, Sarah.
Est-ce que c'est la lecture qui devient machinique ou est-ce que c'est justement une machine au service de la lecture? Mais un livre électronique renferme beaucoup plus que le texte. Parce qu'il y a les métadonnées, il y a énormément d'informations qui sont codées dans le livre et qui permettent d'avoir des effets et des choses comme ça qu'on n'aurait pas avec un livre papier. Comme aussi la présence de dictionnaires sur une liseuse qui permet, quand on ne connaît pas un mot ou quand on veut traduire un mot, d'en trouver la signification. Malheureusement, ces dictionnaires ne sont pas très fournis et ne peuvent pas être aussi efficace qu'un dictionnaire réel, c'est aussi la machine qui permet la lecture de voyage, qui permet la lecture portable, la possibilité de partir en vacances avec sa bibliothèque, la possibilité pour un chercheur de se déplacer avec le corpus documentaire sur lequel il va travailler sans devoir porter des kilos et des kilos de livres. Et c'est donc vraiment une machine au service de la lecture plus qu'autre chose.
Mais on sait bien que les esclaves changent immanquablement les maîtres. Et est-ce qu'il y a des changements dans les modes de lecture que tu as pu observer chez toi ou chez d'autres grâce à ça ou à cause de ça?
Dans mon expérience, pas vraiment. Il y a un changement absolument merveilleux, c'est la possibilité de changer la taille des caractères. Et en tant que traductrice, c'est un outil absolument merveilleux qui sauvegarde mes yeux et ma fatigue et me permet une meilleure concentration, par exemple.
Ah oui, ça, c'est vraiment... Parce que toutes les personnes âgées, il y avait des éditions gros caractères, mais les livres, c'était des vraies éditions, il fallait un choix. Tandis que là, effectivement, ça permet... Moi, j'ai ma grand-mère à continuer à lire. Mes parents continuent à lire beaucoup. Et grâce à la liseuse, justement, ils peuvent grossir les caractères sans devoir acheter dans des éditions gros caractères. Donc ça, c'est un vrai, vrai progrès.
Et en plus, on peut se cacher. On peut lire ce qu'on a envie sans avoir peur du jugement de l'autre. On peut être dans le métro en train de lire un roman porno ou une romance... Et sans que personne ne le devine. Pendant mon enfance, par exemple, il y avait des livres que mon père recouvrait pour les lire dans le train, comme les versets sataniques, par exemple, parce qu'il n'avait pas envie que des interactions puissent tourner vers la critique, vers la violence. Aujourd'hui, avec une liseuse, on lit ce qu'on a envie de lire et personne ne peut le savoir.
Est-ce qu'on a des liseuses audio? Est-ce qu'on peut produire automatiquement à partir d'un texte
Tout à fait. La Kindle permet cela, et depuis longtemps, vraiment 5 ou 6 ans, d'avoir à la fois le livre en texte et le livre audio. Ce qui permet, par exemple, de commencer à lire pendant son petit déjeuner, de prendre sa voiture, avec un casque ou pas, et de continuer à lire en écoutant. Ce qui permet aussi la lecture à un certain nombre de personnes qui vont avoir à nouveau des problèmes oculaires. Donc à la fois l'augmentation des caractères et la possibilité d'entendre le texte quand le regard se fatigue. Et donc c'est la machine qui nous lit les histoires.
C'est-à-dire que la voix est synthétisée directement à partir du texte ou il y a eu un acteur humain dans la...
Il y a eu un acteur humain.
On n'est pas encore tout à fait...
Non, mais il y a...
Parce que l'intonation, la machine ne sait pas le faire.
Non.
Donc elle ne comprend pas encore ce qu'elle lit dans notre monde actuel.
Voilà, et avec la synthétisation et le côté très plat des voix électroniques, je ne crois pas que ce serait très agréable à écouter. Mais il y a eu, je me souviens d'un roman dont j'ai malheureusement oublié le titre, qui est l'auteur, où justement un humain abandonné, découvert dans une capsule, se retrouvait élevé par un vaisseau et des intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles qui servaient aussi bien de tuteur, de parent et de professeur à cet enfant, lui lisaient des histoires.
Donc, lire à un enfant, c'est vrai, c'est l'élever, hein, la machine qui élève l'enfant. Hein. Je ne sais pas si on est là. Est-ce que, Ménéas, alors, on leur fait confiance, ces machines, pour lire pour nous ?
C'est vraiment le cœur du sujet, parce que personnellement, j'ai du mal à accepter un peu toutes les machines. Déjà, quand dans le cadre de ce salon, on m'a demandé ma participation, j'ai dit je déteste tellement toutes les machines que, bon... Mais je vais essayer un peu d'expliquer pourquoi c'est possible. Tu as fait une présentation, effectivement, je viens moins du domaine de la science-fiction que celui du fantastique. Le fantastique, bon, voilà, moi, dans ce que j'ai écrit, il est question, par exemple, d'une autre école de magie. Ça veut dire, est-ce qu'on peut prétendre qu'il existe aussi une pensée magique qui permettrait d'arriver aux mêmes conclusions que celles où peut arriver la science ? D'une part, je vais dire oui. Je vais préciser une petite chose. Par exemple, dans presque tous mes bouquins, il y a toujours le rôle d'un alchimiste. L'alchimiste, on peut dire, il se situe à la croisée des chemins entre ce qui était de l'ordre d'une pensée magique et puis d'une pensée beaucoup plus rationnelle. Mais les alchimistes, pour exprimer ça, utilisent un langage qu'on appelle le langage des oiseaux. Pour certains, on peut penser que c'est basé sur des jeux de mots, mais on peut savoir que même Rabelais, par exemple, au début de Gargantua, dit que si on ne maîtrise pas la langue des oiseaux, on ne pourra pas comprendre, par exemple, son œuvre. Dans la langue des oiseaux, la magie, pour nous, ça veut dire, ça peut ressembler à un jeu de mots, mais la magie, c'est là où l'âme agit. Donc, on est au cœur là de l'âme. Est-ce qu'une machine, déjà, on n'a pas une définition déjà précise de ce que pourrait être l'âme, bien évidemment. Mais c'est dans ce sens-là où je trouve une machine va-t-elle pouvoir à un moment traduire un texte, peu importe comment elle le lit, je sais bien qu'il y a des algorithmes très performants aujourd'hui, mais est-ce qu'elle va pouvoir traduire ce que Tolkien appelait par exemple la coloration d'un texte, c'est-à-dire ce petit truc qu'il y a au-delà des mots qui fait que... Moi, je dis qu'il faut avoir une âme pour comprendre certains textes. Et là, je ne suis pas sûr que la machine, pour le moment, puisse être à ce niveau-là.
Est-ce qu'on peut parler de conscience en parlant d'âme ? Je ne sais pas. Mais on peut voir, par exemple, le personnage de l'ordinateur de The Moon, The Harsh Mistress, Révolte sur la Lune, Mycroft, atteint la conscience par la lecture. Et par l'humour. C'est en lisant des blagues qu'il a demandé à son technicien que petit à petit, il apprend la conscience de lui-même en essayant d'apprendre l'humour, de comprendre ce qui est drôle une fois, ce qui est drôle toujours, ce qui est drôle pour un homme, pour une femme, pour les deux. Et petit à petit, avec ça et avec la lecture et avec l'imaginaire, c'est ainsi que cette machine atteint la conscience. Et quand on parle, il faut lire le roman pour le voir, mais Mike est quelque part l'intelligence artificielle qui a une âme, véritablement.
C'était pour rebondir un peu sur la même chose, parce que autant on n'a pas une définition de ce que pourrait être l'âme, autant il me semble qu'on n'a toujours pas réussi à définir ce que pourrait être la conscience. Partant de là, je reprends l'exemple d'Olivier tout à l'heure, c'est dans Corneille, je crois que c'était dans Polyeucte, une phrase comme le désir s'accroît quand l'effet se recule. Est-ce qu'une machine peut à un moment saisir qu'il s'agit d'humour et comment on peut arriver à ce résultat?
Oui, mais on parle de machine qui lit et tu parles de compréhension. Là, ce sont deux choses qui sont différentes. La machine Là, elle se contente de lire, mais on ne lui demande pas comprendre. Comprendre, c'est, ça reste... Les auteurs, Corneille, Molière, s'adressent à des humains, pas à des machines. Donc, je veux dire, une machine qui comprendrait, il faudrait qu'elle soit humaine. Mais est-ce que c'est obligé ou obligatoire qu'elle soit... Est-ce qu'on a besoin qu'une machine comprenne ? Là, la lexicométrie est intéressante parce qu'elle permet de lire, pas parce qu'elle permet de comprendre. Comprendre reste encore du domaine de l'humain.
Oui.
Donc je crois qu'il y a la différence, elle est là.
Et oui. C'est tout le même problème avec les logiciels de traduction automatique. C'est-à-dire qu'ils comprennent la forme, mais ils ne comprennent absolument pas le sens. Et donc les logiciels qui existent aujourd'hui sont incapables de traduire une phrase littéraire, par exemple, de comprendre le jeu entre les mots, de comprendre la musique d'un langage.
Voilà, oui, mais je rebondissais là-dessus par rapport à la liseuse. Bon, il y a évidemment le texte écrit, et ça, évidemment, qu'un logiciel avec un bon algorithme peut le lire, mais on parlait aussi du livre audio, et bon, ben voilà, j'ai eu un peu ma réponse dans le sens où c'est il semblerait que ce ne soit pas demain que ce soit la machine elle-même qui lise le texte en mettant les intonations nécessaires, la couleur nécessaire pour...
Je crois que pour ça, il faudrait que la machine comprenne le sens. Ou alors que chaque mot, chaque passage, il faudrait une programmation extrêmement précise.
Mais tu sais, Sarah, nous avons, excusez-moi d'intervenir, nous avons l'expérience, non pas avec des machines, mais avec des humains, des élèves ou des étudiants qui apprennent une langue étrangère peuvent décoder syllabe à syllabe, mot à mot, le son des mots, mais on entend très vite qu'ils ne comprennent pas, quand ils ne comprennent pas.
Mais même plus finement sur la langue elle-même, la ponctuation d'une phrase n'est pas... même si l'auteur est très précis dans sa ponctuation, ça ne recoupe pas les respirations quand on lit le texte. Hein, la ponctuation a aussi des effets liés à la syntaxe, liés à des découpes grammaticales. Donc, je veux dire que la machine est embêtée aussi parce que la ponctuation ne l'aide pas aussi pour lire. Donc, je veux dire, le langage lui-même écrit n'aide pas à la lecture, même si l'auteur a une langue très orale. La question est, même si lui est très oral, ça ne veut pas dire qu'on peut transcrire vraiment à égalité avec une machine.
Ouais. Non, j'ai pas de... Non, je me posais juste une question, parce que justement, là, on parle de la ponctuation, par exemple, dans les textes. Il y a eu un moment de notre littérature où on est passé par le nouveau roman, et je pensais précisément à des romans sans aucune ponctuation. Donc là, je me demandais comment une machine pourrait faire pour essayer de le traduire.
Je crois qu'il lui manquerait des codes, justement, pour séparer les phrases, séparer les mots et atteindre un sens, ou simplement, je répète, une musique, oui. Puisque justement, oui. Il manque... les signes qui permettent de l'entendre.
Mais je vais être plus brutal et plus méchant. Je suppose que je suis un espion ou un officier de police politique et je veux une machine qui m'aide à lire les textes pour traquer les dissidents. On a ça un petit peu. On sait que la NSA repère des mots-clés dans les messages. Est-ce qu'on a un peu plus que ça ? Est-ce qu'on l'imagine ? Est-ce que vous l'avez imaginé ?
Bon, juste pour ce détail-là, ne pas oublier qu'on a une histoire de l'humanité et que du temps du communisme, notamment RDA, la Stasi ou autre... avait un traitement humain de ça et on se retrouvait dépassé parce que en fait même la NSA, il y a un moment, il faut qu'il y ait l'humain à la fin et que les données qui sont transmises sont tellement énormes que finalement au bout d'un moment les humains calent, hein. c'est pas impossible de traiter, d'ailleurs on le voit très bien, l'un des gros problèmes c'est que vous pouvez essayer de surveiller 10 personnes, 400 000 ou 2000, il vous manque le nombre de, comme il faut imaginez 6 ou une dizaine de policiers pour surveiller une personne. Il faudrait plus de flics que d'habitants pour pouvoir surveiller toute la population.
De plus, les mots-clés qui seraient à ce moment-là analysés, recherchés par les machines, ont une polysémie et peuvent être utilisées dans un sens qui n'est pas du tout celui qui est recherché par la machine qui lit. Et c'est sans doute pour ça aussi que dans des dystopies comme 1984, on crée la novlangue. Et on a besoin d'un autre langage simplifié et exempt de polysémie pour que, à ce moment-là, oui, la machine de surveillance, puisse aller beaucoup plus loin dans cette surveillance même.
Oui, je vais revenir à mon histoire d'alchimie parce que longtemps les alchimistes ont été traqués, donc c'était évident qu'il fallait, pour pouvoir continuer à en parler, à développer, cacher l'essentiel dans des textes à travers des symboles, etc. Là, je crois que ce serait pareil. Une machine, comment pourrait-elle traquer ce qui a été camouflé à l'intérieur de mots qui sont courants, qui sont du langage usuel? Mais je crois que là aussi, pour moi, c'est encore une des impossibilités
et
de demain.
Plus, l'humanité a une histoire du camouflage des mots et du codage qui est beaucoup plus ancienne que l'histoire des machines.
Oui, nettement.
Voilà. Et on en revient à la polysémie à nouveau.
Et on en revient toujours à la polysémie.
Mais on en revient aussi aux origines de l'informatique. Quelle a été une des premières motivations pour construire des ordinateurs? C'était les services secrets britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec Alan Turing, c'est bien connu maintenant, qui avait besoin de décoder des messages militaires allemands.
Et d'ailleurs, les premiers informaticiens engagés par des entreprises comme IBM dans les années 50... On n'enseignait pas l'informatique. Il n'y avait pas de diplôme d'informatique. Donc, qui est-ce qui cherchait, avant tout, des mathématiciens et des linguistes? La mathématique est déjà un langage, et la linguistique aussi. Et c'est vraiment ces deux spécialités-là qui ont, quelque part, construit les balbutiements de l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Oui. Et alors, donc, y a quand même une espèce de lecteur que tous les auteurs considèrent comme légèrement moins qu'humaine, c'est le critique littéraire. Hein, voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer des programmes de critique, peut-être même déjà à l'heure actuelle, le genre de truc qui va vous mettre entre 1 et 5 étoiles à un bouquin en fonction du quotient d'action ou de sexe que recherche le lecteur? Ou des choses plus intelligentes, peut-être.
Au moins, on pourrait ne pas lui en vouloir. Ce sera qu'une machine, et on prête toujours une certaine neutralité à la machine. Donc, quelque part, on peut se dire, c'est pas grave, c'est pas une attaque. On se sent pas blessé par la critique d'une machine.
Non, moi je vais persister dans l'idée que c'est toujours pas là, c'est pas demain la veille que les machines seront à même de faire une critique littéraire, parce que je sais que certains algorithmes aujourd'hui, par exemple, arrivent à définir un peu des caractères. J'ai appris par exemple que c'est très facile de savoir si un bouquin, par exemple, a été écrit par un homme ou une femme. Il paraît que on aurait des tics langagiers. J'ai lu ça autour de quelques adverbes ou des prépositions, comme l'homme utiliserait beaucoup plus des mots comme plus, comme davantage, comme etc., qui seraient un peu plus absents du langage ou du discours féminin, par exemple. Mais de là, après, à bâtir une véritable critique basée sur les idées et le contenu même d'une œuvre, d'abord, je n'y crois pas, mais surtout, je ne le souhaite pas, quoi.
En plus, on a un autre problème pour cette machine, c'est comment la machine réagirait. Moi, je considère qu'il y a des auteurs figuratifs et des auteurs abstraits, et que chacun a une manière d'écrire différente. Et comment un auteur figuratif serait sans doute plus compréhensible pour la machine, mais comment arriverait-elle à comprendre, à lire, à analyser un auteur abstrait?
Oui, ça pose aussi le problème des différents types de critiques, c'est-à-dire qu'il y a des critiques où en fait c'est le ressenti par rapport à la lecture, ou l'autre critique c'est d'essayer d'analyser quelle est la place de l'œuvre, ce que l'auteur veut dire, quelle est la place de l'œuvre dans un ensemble, un contexte littéraire, c'est que devient extrêmement complexe. On n'est plus simplement à analyser les phrases et les mots et de voir une œuvre dans un contexte. Là, la machine, elle cale, à mon avis. Alors que, à la rigueur, on parlait de lisibilité. Ça, effectivement, c'est quelque chose. Ça existe. Il y a des logiciels d'aide à l'écriture qui ne font pas que corriger l'orthographe et la grammaire, mais aussi peuvent vous donner des indications sur la lisibilité du texte. Donc ça existe déjà. Donc on pourrait. Mais après, est-ce que c'est un critère, la lisibilité, pardon, un critère valide pour analyser un texte ? C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant à la rigueur pour savoir à quel public on va adresser un livre ? Ça peut être intéressant d'avoir ces critères, d'avoir une objectivation de ce critère qu'est la lisibilité. Mais c'est pas pertinent comme critique. On ne dit pas qu'un livre est meilleur parce qu'il est plus lisible qu'un autre.
Voilà. Et puis on en revient au nouveau roman, à l'Oulipo et des choses comme ça, où à ce moment-là, l'analyse de la lisibilité du texte est absolument impossible selon ces paramètres-là.
Oui, puis on voit bien pour le moment la faiblesse de ce. Moi, personnellement, j'écris souvent sous Word, ce qui est le cas de pas mal de gens, mais si on laisse le logiciel, par exemple, décider de ce qui pourrait s'apparenter au style lui-même, c'est fréquent que Word, par exemple, souligne tout un bloc de texte en disant « Non, cette phrase est trop lourde. » J'ai même vu, je crois, d'une manière de dire que c'était désuet d'écrire comme ça. Donc, ça fait un peu râler en se disant que de quoi se mêle Windows ou Word, quoi. Parce qu'effectivement, sur une phrase qui semblerait parfois un peu longue, visiblement, avec les logiciels, on n'a pas trop le droit de dépasser 10 lignes. Bon, je suppose qu'un auteur comme Proust aurait eu donc des pages entières surlignées par l'ordinateur. Bon, mais en dehors de ça, non, je ne crois pas que...
Puis on a aussi l'écriture, la correction automatique sur les smartphones ou les tablettes, où... On se retrouve avec des suggestions ou des mots qui apparaissent tout seuls dans un message qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on veut dire. Mais en même temps, c'est une correction qui s'adapte aussi aux habitudes d'écriture du propriétaire de la machine.
Mais je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur les logiciels, Word ou Antidote, tout ce genre de choses. C'est utile dans une. Enfin, moi, je pense pour un écrivain, c'est utile dans le sens où ça l'aide à prendre conscience de ce qu'il fait. C'est-à-dire que, évidemment, si l'auteur se contente de corriger ce que lui dit Word, effectivement, ça n'a pas de sens, parce que c'est pas la machine qui va dire. Mais ça lui dit, ah, voilà, tu as fait quelque chose, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Ou c'est parce que tu n'as pas fait attention ?
Oui. Ou est-ce que c'est un tic d'écriture de répéter une même formulation, une même structure de phrase ? Autant de fois que ça arrive dans un texte, et ça fait vraiment réfléchir sur sa propre écriture, de se dire oui, j'ai tendance à trop utiliser cette forme, ce mot, etc.
Oui, c'est vrai que ça peut être un bon repère, effectivement, que la machine nous signale parfois. Elle n'en est pas encore, je pense, à pouvoir déceler ce qu'on appelle les répétitions,
Oui, si, les répétitions,
des mots rapprochés, par exemple.
Oui, ça marche très bien, ça. Hélas.
Voilà, les répétitions de vocabulaire et les répétitions syntaxiques.
Oui, surtout les répétitions syntaxiques. Ça encore, bon, oui. Dans ce cas-là, oui, là, la machine peut être une aide réellement à l'écriture.
Et là, elle lit le texte d'une certaine manière, ou en tout cas, on lit la structure.
Mais on reste dans la structure. On n'entre toujours pas dans l'œuvre elle-même.
On n'est toujours pas dans le sens.
C'est pour ça qu'il faudra toujours un éditeur, sachant que tous les éditeurs ne font pas travailler les textes, mais il faut toujours qu'il y ait un humain pour avoir le regard sur le texte de l'auteur pour le faire retravailler. Mais ça évite, parce qu'en fait, c'est ce travail de chercher les répétitions. Moi, en tant qu'écrivain, quand j'en suis à la correction d'épreuves ou autres, je me dis toujours, un singe pourrait le faire. C'est-à-dire, parfois, il y a un aspect extrêmement mécanique ou systématique de correction. Il y a des types de corrections qui sont assez systématiques, qui sont absolument pas intéressantes en tant qu'écrivain à faire, oui, et qu'une machine pourrait faire. Mais je veux dire, il y a quand même une part du travail de l'auteur qui est de l'ordre de la mécanique. Donc c'est, la machine peut le faire avant, donc ça aide aussi.
Ménéas, dans ton roman, alors, il faut que je le lise correctement, hein, Petit cuivre contre le grand virtuaire, il y a une machine qui s'intéresse au livre, si je me souviens bien, ou une sorte d'intelligence artificielle qui s'intéresse au livre, mais qui ne veut pas du bien.
Oui. Bon, je vais donc résumer,
oui, dis-nous, dis-nous de
résumer un peu de quoi il s'agit dans Le Grand Virtueur. Bon, Le Grand Virtueur, on entend bien qu'il peut s'agir d'un tueur virtuel. Et dans mon bouquin, ce tueur s'appelle Kugol. Bon, ça, c'est très proche peut-être de quelque chose de connu. Et, parce que quand on voit la place qu'a pris Kugol à l'heure actuelle dans nos vies, on a tendance à se dire que c'est un peu un dispensateur de connaissances. On a accès évidemment à des centaines de millions maintenant de données. Et moi, la question que je fais poser à mes généraux là-dedans, c'est oui, on a accès à des données, mais lesquelles? Et j'avais imaginé qu'effectivement, on le voit quand on est passionné par un sujet, par exemple, quand on fait de la recherche sur Internet. Si on poursuit la même recherche pendant plusieurs mois, très rapidement le système entier est en boucle, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à nous proposer quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que cette connaissance n'existe pas, mais elle est peut-être que dans des textes qui sont dans les bibliothèques, dans les recherches de la plupart des chercheurs ne sont pas publiées directement sur Internet, mais il faut aller... Et moi, j'avais l'impression que Google partage ce que j'appelle les miettes un peu du... C'est les miettes du savoir, sachant que de grands pans de la connaissance restent effectivement cachés. Donc voilà le danger que je trouvais possible à ce grand virtuaire, qui est de progressivement cacher une partie de la connaissance. Ça m'était apparu après la lecture d'un livre d'Antoine Bellot qui était le CFR, le Consortium de Falsification du Réel, un groupe de gens qui sont là pour aller dans les archives véritables, c'est le papier un peu de partout, des gouvernements et autres, et régulièrement transformer des petites choses, c'est-à-dire un fait qui s'est passé, par exemple, en 1492, on met 1495, on falsifie la réalité pour, dans un futur proche, avoir une autre réalité qui, elle, serait évidemment dirigée par des gouvernements un peu étatiques, voire totalitaires, quoi. Donc, et j'ai peur personnellement qu'une grosse entité comme Google soit tentée par cette modification du réel sans qu'on puisse s'en rendre compte.
Il y a aussi le fait que quand on est face à Google, à toutes ces choses-là, à Wikipédia, etc., il y a une nécessité d'enseignement à la lecture du média, d'enseignement du média tout court, pour aller au-delà de la simple information, pour pouvoir la recouper, la revérifier, aller rechercher la source. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois d'enseigner et qui, malheureusement, fait que l'information qui se propage est tronquée. Parce que, et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, sur Facebook, avec un certain nombre de hoax, comme on dit, donc de fausses informations qui circulent, qui nourrissent les théories du complot d'ailleurs, parce que la personne qui a trouvé cette information n'a pas pris le temps d'aller à la recherche de sa source et
n'a pas voulu
et d'aller vérifier la véracité des informations qu'elle a souhaité transmettre.
Ça, c'est effectivement sur la question de l'information, c'est quelque chose de très important. Là, on dérive un peu, mais quand même, le fait que Facebook, nous, ce soit des réseaux d'amis. Donc, en fait, nous partageons entre amis et des choses. Et selon le choix de nos amis, nous essayons d'avoir... nous avons des infos. Nos amis nous transmettent des infos parce qu'ils pensent que ça va nous intéresser. Ce qui est un peu différent d'un média généraliste, hors réseau social, qui partage les informations qu'il souhaite, peu importe si le public veut les entendre ou ne veut pas les entendre. Donc je pense qu'il y a un problème de communauté, en fait, et que les réseaux sociaux, finalement, nous dissocient. C'est-à-dire que, par exemple, des gens d'extrême droite ont des amis d'extrême droite, ils vont se partager des infos d'extrême droite. Donc du coup, ils ne veulent pas, etc., avoir accès aux infos. Quand ils vont avoir les médias classiques qui vont leur diffuser des infos différentes, ils vont se dire, c'est les médias qui nous mentent, nous on sait la vérité dans notre cercle. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose lié vraiment aux réseaux sociaux, à l'informatique, qui est de lire les informations.
Voilà. On sort totalement de l'objectivation qui est le travail normalement du partage de l'information pour être dans un univers totalement subjectif. Que ce soit Facebook, mais aussi certains sites d'information ou certains sites encyclopédiques. Ou puisqu'il s'agit d'informations partagées, de notices qui sont écrites parfois à plusieurs, corrigées régulièrement, on se retrouve avec des informations erronées qui sont subjectivement posées là d'une manière volontaire. Il y a des écrivains, par exemple, dont la page Wikipédia doit être corrigée régulièrement parce que des petits malins s'amusent à rajouter des informations plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, dans un but pas toujours très sympathique.
Oui, mais bon, là, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu en parlant des réseaux sociaux, mais moi, c'était davantage sur... Effectivement, ce qui transite, c'est l'information. Et c'est plutôt sur la pertinence de l'information qu'on va mettre dans les réseaux ou dans la machine que je voulais plutôt mettre l'accent. Quand j'ai commencé, par exemple, à écrire mon premier, c'était Abracadagascar, c'est une histoire de magie. Et j'écris ça au moment où Harry Potter était au plus haut, on va dire, des préoccupations de lecture des jeunes. Le premier Harry Potter s'appelle La pierre philosophale, par exemple. Je me souviens très bien qu'à cette époque-là, si on tapait La pierre philosophale dans un moteur de recherche comme ça, pratiquement les 10 premières pages de Google renvoyaient sur Harry Potter. Il était presque impossible d'accéder à d'autres données pour savoir ce qu'était cette pierre philosophale sans passer par les critiques qui avaient parlé de Harry Potter, etc. Mais on n'arrivait pas à avoir d'informations pertinentes sur la chose. C'est plutôt ça, je trouve, le danger de la mise en ligne.
Mais quelque part, ces algorithmes de Facebook ou autres nous lisent et choisissent l'information à notre place. Et quelque part, nous rendent paresseux par rapport à l'information, par rapport à la recherche de l'information, de la vérité, de certains événements, etc. Comme par exemple le fait que, oui, est-ce que la personne qui cherche l'information va avoir le courage de passer les 10 premières pages pour trouver d'autres informations?
Ou si aussi tu parlais d'apprentissage, c'est aussi quand on voit qu'effectivement c'est Harry Potter, il faut refaire sa recherche, il faut reformuler sa recherche, c'est aussi... l'information, quelle est la question que l'on pose, comment on la reforme. Donc Sarah parlait de la formation des gens, c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, moi aussi j'ai le même problème. Enfin, quand on fait toute une recherche, on a la formation qui fait que se dire, ah oui, alors si je cherche ça et que j'obtiens ce résultat et que j'ai pas envie de faire les 100 pages sur Harry Potter, il faut que je retrouve quel critère va me permettre de sélectionner, enfin, d'éliminer tout ça pour atteindre la chose qui peut m'intéresser. Donc effectivement, là, c'est un autre...
Comment faire en sorte que la machine puisse nous lire de manière pertinente?
Mais il te faut une machine pour t'aider à lire que tu vas programmer pour faire le travail d'élimination dont parle Olivier et qui sera moins paresseuse que l'humain. Je me fais l'avocat du diable machine, mais... Bon, peut-être qu'il est temps de demander aux machines qui sont devant nous, là, de nous poser des questions.
Oui, c'est pas vraiment une question, mais c'est à propos de la lecture par un logiciel. Vous avez par exemple Ghost Reader, c'est extraordinaire. c'est pas du tout de mauvaise qualité, a cappella. Je vais même vous donner un truc. Si vous voulez savoir si votre texte est bien ponctué, vous le faites lire par Ghostreader. S'il est impeccable, c'est qu'il est bien ponctué. Et sinon, eh ben, c'est qu'il est mal ponctué.
Mais parfois, on fait des choix de ponctuation qui sont des choix d'auteur.
Bien sûr.
Pour justement le rythme de la phrase, la musique des mots, qu'un logiciel tel que celui-ci va considérer comme une faute.
Je suis d'accord. Mais par exemple, pour lire un article de journal, article du Monde, c'est extraordinaire.
Ah oui, mais là, on est d'accord.
Ça marche très, 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 très bien, vraiment très bien. Pour ça, j'étais surpris de voir où vous
disiez... Si, parce que dans les textes littéraires, ça a déjà été fait de tester la comparaison entre même un texte de Flaubert, parce que pourquoi je parle de ça, Flaubert, on sait que dans son processus d'écriture, il y avait cette phase du gueuloir où il lisait son texte à haute voix pour entendre les fautes, en fait, où ça n'allait pas. Mais on se rend compte que même des auteurs qui ont cette écriture orale, quand on regarde comment ils placent leur ponctuation, même si ce sont d'excellents ponctueurs, et ce qu'on est obligé de faire pour lire, les respirations qu'on est obligé de prendre, ça ne fonctionne pas, c'est jamais tout à fait en accord. Ça ne fonctionne pas, on croit naturellement, et moi-même, avant de voir ces études, je pensais qu'effectivement, la ponctuation nous aidait totalement, mais non, ça ne fonctionne pas totalement. Il y a des subtilités de la voix qui ne se retranscrivent pas totalement dans la ponctuation. Parce qu'il y a des effets grammaticaux, la ponctuation est grammaticalement, syntaxiquement, il y a des obligations.
Et c'est vrai que depuis le départ, nous parlons de machines qui lisent de la fiction. Nous ne sommes pas penchés sur la lecture de l'information pure, la lecture d'un article, d'un mémoire, d'un article scientifique, mais vraiment nous sommes restés dans la lecture de la fiction, et donc dans un sens qui n'est pas accessible à la machine.
Oui, c'est vrai aussi que, bon, on sait que déjà actuellement, il y a un certain nombre d'articles qui sont entièrement pondus par des robots, par des machines. Alors bon, je sais qu'essentiellement pour le moment, c'est aussi dans, par exemple, le domaine sportif, un journal comme l'Équipe, voilà.
Aux États-Unis, c'est quasiment
a de moins en moins besoin de journalistes sportifs pour pouvoir donner des simples résultats. Bon, je sais qu'il y a des domaines comme ça. Donc, mais effectivement, on n'est pas dans la fiction. Là, c'est plus facile de regrouper de l'information et sous des formes quand même assez basiques.
Bonjour. Vous parlez à chaque fois de lecture, mais de lecture de littérature. Est-ce que vous avez pensé aussi à la lecture d'œuvres graphiques comme des tableaux? Et entre autres, Microsoft qui a fait un programme d'apprentissage statistique pour lire les œuvres de Rembrandt en 3D, donc les coups de pinceau, et donc à recréer un Rembrandt, donc un nouveau Rembrandt de Microsoft. Est-ce que là aussi on peut parler de lecture et donc de recherche de sens à partir d'apprentissage statistique?
Je crois qu'on peut parler de lecture pour énormément de choses. Il y a eu une table ronde sur machines et psychothérapie. Et quelque part, oui, il y a des machines pour lire l'humain. Il y a des tas de textes littéraires qui en parlent d'ailleurs et qui parfois sont très amusants. Mais est-ce que lire Rembrandt et créer un Rembrandt, c'est pas de la création. Il y a peut-être, c'est une lecture technique. C'est une lecture du geste. Ce n'est pas une lecture de l'émotion. Ce n'est pas une lecture de la volonté et de la du désir créatif de l'auteur. C'est ça. On reste vraiment dans l'abstrait.
Et encore même dans l'abstrait, parce qu'on a eu la discussion à une autre table ronde sur les machines qui peuvent créer de la littérature ou créer de l'art en même temps. Par exemple, l'art abstrait ou le dadaïsme, etc., s'inscrivent dans une histoire de l'art. Donc même quand on pourrait se dire, il y a des tas d'œuvres abstraites, par exemple les Mondrian. Un tableau de Mondrian, c'est des traits, des couleurs. On pourrait se dire, une machine peut le faire. Sauf que chez Mondrian, il y a une interprétation de chaque chose et ça n'est compréhensible que dans l'histoire de l'art. Si vous prenez le fameux tableau de Malevich, carré blanc sur fond blanc, on se dit, mais c'est pas un artiste, ça n'importe qui peut faire. Oui, mais ça voulait dire quelque chose pour dire, voilà la fin de l'art abstrait. Et ensuite, il faut faire autre chose. Donc, ça...
D'autant plus que le carré blanc sur fond blanc, c'est la dernière couche. En dessous du blanc, il y a des couleurs. Et il a vraiment commencé par jouer sur les couleurs pour arriver jusqu'au blanc. Donc on est dans une démarche que la machine ne peut pas réaliser.
Oui, elle peut peut-être pas réaliser, mais la machine quand même peut permettre des possibilités. Je pense à une exposition qui se fait depuis quelques années, chaque année, au Beau-en-Provence, où on a des projections en 3D dans un espace aussi grand que le double de cette scène, par exemple. C'est une projection 3D à l'intérieur des tableaux. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, du Van Gogh. C'est très impressionnant de traverser un tableau de Van Gogh, de mesurer l'épaisseur de certains coups de pinceau.
Mais c'est de la reproduction, c'est pas de la création.
C'est de la reproduction, mais ça aide souvent
à
aller sur le tableau, à comprendre la démarche, là, pour, en l'occurrence, du peintre. Pourquoi je mets plus de matière à un endroit, pourquoi, bon. Effectivement, là, la machine, quand même, apporte un plus dans une formation artistique, quand même.
De la même manière, il y a des photocopieuses, donc ce n'est pas des machines conscientes, mais des photocopieuses à encre thermique qui permettent de reproduire des dessins en relief, qui permettent donc à des aveugles de lire un dessin. Mais on est toujours dans la reproduction et pas dans la création pure.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le fait que la technique ne peut évidemment pas remplacer l'œuvre d'art comme dans Mondrian, qui pourrait sembler mécanique. Ça me fait penser à l'exposition de Michel Houellebecq, justement. Je crois qu'on est dans un temps où il s'agit d'exposer les machines et les outils dans nos vies. Il a exposé dans plusieurs salles que des objets et des outils et des petites machines. Et ici, on est entouré de machines qui nous permettent de nous réunir et de parler de tout ça. Mais quand même, tout ce que vous disiez me donnait envie de lire des propos d'Alain Damasio à la dernière table ronde sur les machines. Parce que je pense quand même qu'en matière de machines, elles sont bien quand elles nous aident à être nous-mêmes en ayant conscience que moins on en a... mieux la planète se portera. J'ai peut-être trop lu Water Knife de Paolo Bassigalupi. J'ai dans une période de méfiance de notre désir de machine sans fin. N'oublions pas que ça... Alors voilà ce qu'a dit Alain Damasio. Hier, il a dit « Sortons du mesurable, du quantifiable, du contrôlable. Sinon, nous fabriquons le contrôle qui nous rétro-aliène. Nos vies sont dans le qualitatif, pas dans le quantitatif. Elles ne sont pas dans le quantitatif, le mesurable. » Elles sont dans le qualitatif, dans l'incommensurable. Le gratuit, l'amour, le don, je pourrais rajouter l'art littéraire, l'art des mots, le langage qu'on partage, sont incommensurables. Cessons de nourrir la machine qui nous rétro-aliène.
Je vais juste répondre à Damasio avec... Il y a un robot qui s'appelle Caspar. C'est un robot qui travaille avec les autistes dans l'intermédiation. C'est un robot intéressant parce qu'il a un visage assez simple, fait de silicone, ce qui fait que ses expressions, c'est-à-dire que le robot peut sourire, peut faire la gueule, etc., et que ce robot est facilement interprétable par un autiste. Et donc, il y a un humain derrière, il y a un opérateur derrière, et c'est grâce à cette machine qui sert d'intermédiaire entre l'autiste et son thérapeute que l'autiste peut communiquer et n'est pas perturbé par tous les mouvements justement inquantifiables, les mouvements du visage, le fait que nos expressions du visage humaines sont subtiles, ambiguës, etc. Et ça permet justement à l'enfant autiste de communiquer avec un humain par l'intermédiaire de la machine, parce qu'on arrive à simplifier les expressions. Donc, mon avis est toujours le même, c'est-à-dire que je crois à la collaboration de l'humain et de la machine, et non pas une opposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette question-là, la machine, donc le robot Caspar, protège l'enfant autiste de toutes les incompréhensions et de toutes les exclusions. C'est-à-dire que les enfants autistes, certains autistes, hein, pas tous, ont des problèmes, justement, ils sont exclus parce qu'ils n'interprètent pas toute cette variété des expressions humaines qui sont inquantifiables. Et donc, au contraire, ça l'aide à ne pas être exclu et être revenir dans la communauté humaine.
De la même manière, il y a ces robots qui ont été créés au Japon sous forme de, comme une forme d'animaux, entre autres des bébés phoques, qu'on utilise dans les maisons de retraite médicalisées pour les patients atteints d'Alzheimer, qui leur permettent d'avoir une interaction avec un animal, une interaction, une compagnie, une douceur, etc., sans mettre en danger la vie d'un véritable animal qu'ils auraient tendance, par exemple, à oublier de nourrir ou à maltraiter.
Je voudrais rebondir sur ce qu'un intervenant avait dit tout à l'heure sur Rembrandt et la création artistique à partir de machines. Moi, je pose la question d'un point de vue de fan, pas d'un point de vue éthique ou artistique. Il y a souvent des auteurs qui meurent trop tôt, des œuvres qui ne sont pas finies. Est-ce que c'est possible techniquement d'entrer des masses d'infos dans une machine pour qu'elle puisse terminer une œuvre au plus proche de ce que voulait l'auteur ?
Une œuvre picturale peut-être. Une œuvre littéraire, je ne crois pas.
Ça n'empêche pas les éditeurs de le faire, c'est de l'argent à gagner, bien entendu. Mais et pour des œuvres musicales aussi, c'est très fréquent. Hein. Mais je ne crois pas qu'on ait mis les machines au boulot là-dessus. Peut-être que ça va arriver. Hein,
Et peut-être que les machines feraient de la très bonne techno.
Alors juste histoire de faire ma pub, je le dis ouvertement, c'est-à-dire que je vous conseille à ce moment-là, pour avoir la réponse à votre question, de lire ma nouvelle dans l'autogégie des Utopiales 2016, qui traite aussi de cette question.
Cette anthologie est en vente dans la librairie à côté d'ici, où les auteurs vont se retrouver en signature, puisque nous sommes arrivés au bout de l'heure de la table ronde. Je vous remercie de votre attention, de vos questions, de votre soutien, et bien sûr, surtout, les participants à la table ronde.